Radio Scénic, Éric Dauterre, bonjour. Radio Scénic, c'est votre émission sur le théâtre tous les 15 jours sur Aligre FM. Alors aujourd'hui, on a décidé de se poser une question, c'est à quoi ça sert de monter des classiques ? Molière en trottinette, Alceste à bicyclette, Racine en boîte de nuit. À quoi ça sert d'adapter encore ces classiques ? Quelle est leur signification ? Alors pour répondre à ces questions, on a fait venir deux metteurs en scène et deux comédiens. L'un monte la double inconstance au Lucernaire et l'autre monte l'Avare au même théâtre du Lucernaire. Pascal, quand je vous ai évoqué les classiques, vous avez décidé de consacrer votre chronique architecturale à un théâtre le plus connu d'entre tous.
Oui, aujourd'hui nous allons parler de...
Je crois qu'on vous entend, on vous entend pas très bien, Pascal.
Le français dans tous ses états, c'est-à-dire ce qu'est devenue la Comédie française et où elle a logé pendant les deux siècles de son existence.
Parce qu'elle a beaucoup déménagé a priori.
Voilà, c'est ça.
C'est ce que vous nous direz, c'est ce que vous nous direz en fin d'émission et c'est là que nous vous retrouverons, Pascal. En attendant, on va frapper les trois coups. Radio Scénic, c'est parti.
Radio Scénic par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Jean-Paul Tribou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le metteur en scène d'une double inconstance au Lucernaire. D'ailleurs, je vous propose qu'on en écoute un petit extrait.
C'est votre souverain qui vous aime.
Qui est-ce qui lui a dit de me choisir ? Il m'aime, craque, il m'enlève, sans me demander si je le trouverai bon.
Qu'est-ce qu'Arlequin, hein, au prix d'un prince plein d'égards.
Ne songeons qu'à détruire l'amour de Sylvia pour Arlequin.
Te plains-t-on bien de moi, Arlequin ?
Que voulez-vous, monseigneur ? J'ai une fille qui m'aime, vous en avez plein votre maison et cependant vous m'ôtez la mienne.
Je viens recevoir tes ordres.
Sylvia a t'aimé, tu l'épouseras. Et cela te fera ta fortune.
As-tu encore des scrupules ?
En ce cas, voilà ma conscience en repos.
Sur la liste des mauvais tours que je veux jouer à leur amour, c'est ce tour-là que j'ai mis à la tête.
Si j'avais eu à changer Arlequin contre un autre, c'eût été contre un officier du palais qui m'a vu 5 ou 6 fois et qui est d'aussi bonne façon qu'on puisse être.
Il en est devenu amoureux et souhaiterait en être aimé à son tour.
Son tour ne peut pas venir, c'est moi qu'elle aime.
Vous n'allez pas au fait, écoutez jusqu'au bout.
Mais le voilà, le bout. Est-ce qu'on veut me chicaner, mon bon droit ?
Arlequin est venu le premier. Voilà tout ce qui vous nuit. Si j'avais su que vous viendriez ensuite, en bonne foi, je vous aurais attendu.
J'espère que tout se fera à l'amiable.
Vous paraissez mal assorti ensemble.
Pauvre fille, il est fâcheux que j'aime Sylvia. Sans cela, je vous donnerais de bon cœur la ressemblance de votre amant.
Vous me troublez. Il faut que je vous quitte.
Il me semble que les choses commencent à prendre fin.
Jean-Paul Tribou, bonjour.
Rebonjour.
Rebonjour, c'est entre vous que l'on entend ici dans le rôle de Trivelin. Ça donne un bon panorama de ce qui va se passer. On peut rappeler l'histoire globalement.
Oui, globalement, c'est une pastorale théoriquement qu'a écrit Marivaux. C'est-à-dire qu'un prince croise une bergère et il est séduit. Il la fait enlever et il tente de se faire aimer d'elle alors qu'elle aime Arlequin. Moi, j'en ai fait une lecture peut-être un peu plus proche des liaisons dangereuses, un peu plus cruelle, un peu plus cynique sur les rapports de classe. Mais je n'ai pas changé un mot de Marivaux, n'importe comment. Hein. Tout ça est contenu dans Marivaux. Alors après, sur le thème de votre émission, à quoi ça sert-il de monter des classiques en 2024 ? Il faudrait peut-être s'entendre sur ce qu'on entend par classique. Un classique, pour moi, je pense que pour nous tous d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Philippe Persson aussi, c'est quelque chose dont les thèmes, les sujets sont éternels à travers le temps et l'espace. Philippe Persson a monté l'Avare, ben voilà, un caractère, l'Avare, on le trouve chez Plaute, par exemple. Hein,
alors Plaute, qui est l'inspirateur de Molière. En
voilà, c'est l'inspirateur de Molière, au même titre qu'un caractère comme le Tartuffe, un caractère comme le Don Juan, etc. Là, ce sont des caractères qui traversent les temps. On peut effectivement vraiment les rapprocher de nous, ou moins chez Marivaux, chez les auteurs du 18e. Moi, ce qui personnellement m'intéresse, j'ai monté comme ça aussi le mariage de Figaro, là c'est le troisième Marivaux que je monte, c'est le siècle des Lumières. Et donc les questionnements, le moment où la société française évoluait, commence à préférer les preuves aux croyances. Donc là, c'est une expérience. Marivaux en a fait une autre avec la dispute, par exemple, voilà, de manière à juger de la nature humaine. Et dans la double inconscience, dans les extraits qu'on a entendus, qui sont fort bien choisis, je dois dire, parce que c'est la confusion entre l'amour et le désir. Voilà, c'est un thème essentiel qui traverse les temps. La confusion entre l'amour et le désir, nous le vivons tous actuellement au 21e siècle, comme on l'a vécu au 19e, au 18e et dans les temps anciens. Voilà.
Alors, pour vous présenter rapidement, votre carrière remonte... Quand on cherche votre CV, on tombe sur 5 pages complètes et très serrées de télévision, avec les Brigades du Tigre. Si le nom dit quelque chose à quelqu'un, c'est... Vous avez joué, rappelez-moi votre rôle dans les Brigades du Tigre, oui, ça remonte à quelques années. Hein.
Ça remonte à quelques années, mais j'en ai encore la mémoire. vous savez, c'est une période où les comédiens de cinéma ne voulaient pas faire de télévision. Donc la télévision était obligée de créer ses propres vedettes, entre guillemets. Hein. Un garçon que nous connaissons bien, qui est encore plus âgé que moi, qui s'appelle Jean-Claude Drouot, il a été directeur du Théâtre Royal de Belgique, directeur du Centre Dramatique de Reims, il a été pensionnaire aux Français. Quand il va nous quitter, ça sera Thierry Lafronde des morts. Hein. Voilà, il sera Thierry Lafronde jusqu'à la fin de ses jours. Je me souviens d'une comédienne qui s'appelait Rosie Wart, qui me disait, tu sais, j'ai créé la Mère Ubu avec Wilson au TNP, j'ai joué la Mégère apprivoisée avec Lorenzi. Quand je vais mourir, ça sera Maggie est mort. Moi, ma nécro, je la connais, c'est Pujol est mort, voilà.
Alors, l'inspecteur Pujol, de ma part, il s'agit juste de situer pour nos éditeurs qui ne vous voient pas, qui vous êtes. Vous êtes maintenant, je vais dire, spécialisé dans les classiques. Hein. On a vu, on va faire la cocotte au même Lucernaire l'année dernière. Et c'est la deuxième fois que vous montez un Marivaux. Alors, je reviens à ma question. Hein. Ça sert à quoi de monter? Alors, c'était en 98, hein, si je ne m'abuse. Ça sert à quoi de monter pour la deuxième fois Marivaux? Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle idée d'une mise en scène d'un classique?
Un classique, c'est une œuvre qui, généralement, n'a jamais fini d'être analysée. Selon le regard que l'on pose sur le texte, selon le projecteur que l'on braque, on peut avoir un projecteur social, un projecteur politique, un projecteur freudien, un projecteur... Selon les époques aussi. Moi, j'ai connu une époque post-brechtienne où, systématiquement, tous les classiques qui était vu sous l'angle de la lutte des classes. Et effectivement, on peut l'avoir. À d'autres moments, on est plus tenté actuellement de se rapprocher des sujets sociétaux qui nous préoccupent. Les rapports de genre. Là, par exemple, c'est quand même un spectacle à double inconstance tel que je l'ai monté, qui est post-MeToo, si j'ose dire.
Il est assez social aussi, parce que c'est la cour qui observe cette pauvre Sylvia en train de se faire enlever, et on lui... comment dire, on la
manipule.
On la subtilise à son amoureux pour la mettre dans les bras d'un prince. C'est la classe supérieure qui domine la classe inférieure.
Certes, bien sûr, il y a ce rapport social que j'ai, je crois, souligné. Le côté laboratoire, évidemment, là, on n'est pas à la télévision, il n'y a pas d'image, mais sachez que toute l'action est suivie par la cour à travers des glaces sans teint, ce qui permet à la fois d'avoir un côté laboratoire un peu comme des rats blancs dans un laboratoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on prend deux petits paysans et qu'on les à la cour. Ils sont contaminés quelque part et manipulés par l'ambiance générale. Donc ça, ce sont les rapports sociaux. Mais il y a aussi la sensation... comment dirais-je, la réelle pensée de l'amour toujours, c'est-à-dire qu'au premier acte, Marivaux fait dire à Sylvia et Harlequin, dans 100 ans d'ici, nous serons toujours les mêmes, je suis votre amant, vous êtes ma maîtresse, nous nous aimons, amour toujours. Deux actes après, ils sont chacun dans le lit d'un autre. C'est la vie, quoi, voilà.
Oui, puis c'est un peu chaud, il y a des scènes assez chaudes du prince qui, on va dire, s'envoie en l'air faire avec l'entremetteuse.
Oui, oui, ben ça c'est le propre de la mise en scène. La même scène, ou même, je dirais même la même réplique. Là, théoriquement, cette scène n'est pas faite pour être jouée dans un lit après l'amour. Ils peuvent être là en train de prendre le thé et de converser sur le plaisir de découvrir la pureté chez une jeune fille. Mais si on se dit la même chose, alors qu'on est au lit avec sa maîtresse ou avec son amant, évidemment, ça prend une valeur différente. La mise en scène, c'est aussi ça, je veux dire, la même réplique, dire je t'aime, selon qu'on dit je t'aime en riant, je t'aime en pleurant, ou je t'aime en foutant des baffes, c'est pas la même chose. Et il y aura toujours écrit je t'aime sur le texte.
Le comédien, est-ce qu'il influe sur la mise en scène? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient en premier? Le casting ou la mise en scène?
Ah ben, je pense que chaque metteur en scène a sa méthode.
C'est à vous que je m'adresse.
Oui, alors pour
vous, Jean-Paul Tribou, pour cette mise en scène de la double inconstance.
Oui, mais enfin, comme j'ai travaillé quand même avec pas mal de metteurs en scène en tant que comédien, j'ai vu aussi les différentes techniques. Il y a des metteurs en scène qui disent, bon, mes enfants, essayez, puis je vais voir ce que je vais faire. Et moi, c'est une autre technique. J'arrive avec une mise en scène totalement écrite. Je sais ce qui va se passer. En tout cas, je sais ce que l'on veut raconter. Je l'explique aux comédiens. Ils adhèrent, heureusement, parce que s'ils n'adhèrent pas, c'est bien compliqué. Et après, on commence à travailler. Et là, généralement, on change beaucoup de choses. Parce que le comédien dit, ah, mais attends, regarde à ce moment-là. Ah, je dis, ah oui, ça c'est mieux, tu as raison. Donc, crac, on intègre. Donc, c'est toujours un travail d'équipe, le théâtre. Hein. On se fait des passes. Hein. C'est comme au football, au rugby, c'est un sport d'équipe.
Et on s'écoute et on se regarde.
Et on s'écoute.
Surtout quand on ne joue pas.
Bien sûr, bah bien sûr, oui, ça va de soi, je veux dire, c'est même pas, enfin bon, il faut peut-être le signaler pour les auditeurs, mais c'est vrai que le comédien ne joue pas seulement quand il parle, il joue tout le temps, dès qu'il rentre en scène, et l'écoute est aussi importante que la réplique. Quelquefois plus même.
Techniquement, vous avez toujours, dans les mises en scène que j'ai pu voir, vous accordez une importance particulière à la technique. L'éclairage, le décor, vous parliez des miroirs sans teint dans votre mise en scène précédente. Les personnages sortaient de boîtes, comme des espèces de petits diables sur ressort. Est-ce que c'est quelque chose d'important dans un aussi petit théâtre que d'utiliser à fond la technique? Et de concentrer comme ça une sorte de tous ces talents.
Oui, n'importe comment, ça fait aussi partie de l'équipe. Nous sommes dépendants les uns des autres. Si un effet sonore ou un effet lumineux ne part pas, comme on dit, ça bascule. Là, vous parliez des glaces sans teint. Bah, par exemple, si les lumières ne permettent pas de voir les personnages voyeurs, observants, on loupe un effet. Évidemment, le texte sera toujours dit de la même manière. Voilà. Mais c'est essentiel, hein. Moi, je ne parle que pour moi, mais je ne peux concevoir une mise en scène qu'en concevant la scénographie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Allegre FM 93.1, à l'écoute de Radio Scénique. Et aujourd'hui, on a décidé de se poser la question, pourquoi monter des classiques? Et nous continuons à mettre sur le grill Jean-Paul Tribou, qui est metteur en scène et comédien de La Double Inconstance. Est-ce que le classique, ce ne serait pas comme une espèce d'assurance, d'une continuité dans un monde qui change pour le spectateur tout autant que le metteur en scène?
Je pense que dans tout phénomène de création, peinture, littérature, on ne peut pas du passé faire table rase, hein, selon la formule célèbre. Je n'imagine pas un peintre contemporain qui n'aurait pas fréquenté les musées. Je n'imagine pas un écrivain qui n'aurait pas lu Balzac, Stendhal au XIXe siècle et évidemment toute la littérature antérieure. On ne jaillit pas de rien et nous-mêmes, nous sommes formés par cette littérature, par cette pensée typiquement occidentale. En plus, il y a, selon les pays, des cultures différentes. Je pense que le siècle d'or espagnol, c'est pas les mêmes classiques que Shakespeare en Angleterre et que Molière ou Marivaux ou Corneille ou Racine en France. Donc, il y a une continuité comme ça sur laquelle nous appuyons. Après, la tentation que nous pouvons avoir, que j'ai eue, que j'ai fait aussi, comme plein de mes camarades, c'est de tenter de rapprocher les classiques de nous. Ça dépend ce que ça raconte.
Déjà, on a oublié une chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un classique?
Oui, à
partir de quand et jusqu'à quand?
Oui, par exemple, vous parliez tout à l'heure d'un Phédo que j'ai monté l'année dernière. Est-ce que Phédo est un néo-classique? Oui, je pense que ça l'est devenu, voilà. Il y a un moment où des auteurs contemporains deviennent des classiques.
Alors pourquoi? Parce qu'ils sont enseignés au lycée?
Non, je pense que la définition doit être assez compliquée. Par exemple, à la Comédie Française, lorsqu'un auteur rentre au répertoire de la Comédie Française, par définition, il devient provisoirement classique, parce qu'il peut aussi être oublié. Alfred Savoire a été un grand auteur du début du XXe siècle, plus personne ne sait qui il est. Est-ce que Jean Anouilh, du XXe siècle, est un classique? Et puis, il y a des auteurs comme, on parle d'Anouilh ou de Cocteau, par exemple. Ils ont repris des thèmes classiques. Quand Anouilh écrit Antigone, il s'appuie évidemment sur l'Antigone de Sophocle. Quand Cocteau écrit La Machine Infernale sur l'histoire d'Oedipe, du Sphinx, de Jocaste, etc., il s'appuie aussi sur les classiques.
Alors, il y a deux démarches. Il y a la démarche de la Comédie Française qui est la conservation du patrimoine et l'enrichissement du patrimoine théâtral. Et il y a votre travail à vous, les artisans des théâtres, hors théâtre subventionné, des petits, moyens ou grands théâtres, qui faites vivre ce répertoire en les produisant. C'est vous qui nourrissez le classicisme.
Aussi, mais prenons Marivaux, puisqu'on parle de Marivaux. Je sais que Le jeu de l'amour et du hasard, c'est une pièce la plus connue, je pense, de Marivaux, qui joue sur le travestissement, qui fait que si on se travestit, on change de classe sociale, alors que profondément, on reste dans la même. Ça peut se monter, ça s'est monté en jean et en t-shirt, et ça fonctionne.
C'est pas votre choix de mise en scène.
Parce que je voulais...
Vous êtes très en costume, là.
Là, au contraire, là, c'est classique de chez classique.
Il y a la complète.
Voilà, c'est classique de chez classique, mais la modernité, elle est dans le jeu et dans le propos.
Alors, est-ce que la modernité, justement, c'est pas aussi de mettre en valeur cette langue qui peut paraître un peu désuète et qui, parfois, fait un peu roupiller les jeunes gens qui sont dans la salle, mais de temps en temps, on les voit dresser une oreille sur cette langue qui est très étrange, avec des mots qui n'ont plus la même signification qu'aujourd'hui.
C'est vrai, mais j'ai souvent fait avec mes jeunes camarades qui jouent La Double Inconstance de l'explication de texte pendant les répétitions. Parce que lorsque tout d'un coup, Arlequin dit « Voilà une éveillée qui vient pour m'affriander d'elle ».
C'est magnifique, oui.
Il me dit « Qu'est-ce que... » je lui dis, tu dis, putain, il y a une meuf qui vient me draguer. Bon, mais maintenant, il parle le Marivaux couramment, et pour les spectateurs, puisque vous avez vu le spectacle, tout le monde entend parfaitement la langue de Marivaux. Elle est jouissive, elle est jubilatoire.
Justement, comment est-ce qu'on arrive, et c'est une question que je poserai tout à l'heure à Philippe Persson, comment est-ce qu'on arrive, quelle que soit la mise en scène, à mettre en valeur la langue? Parce que c'est ce qui compte. Est-ce que finalement, un classique, ce serait pas un texte qui résiste envers et contre tout à tous les traitements qu'on lui inflige?
Peut-être, oui, c'est un jugement possible.
C'est une question.
Oui, c'est une question. Moi, je pense que là, c'est la qualité des acteurs qui fait que l'appropriation de la langue... là, j'ai une équipe d'acteurs franchement exceptionnelle, j'en parle à l'aise, ce sont des jeunes gens pour la plupart. Ils s'approprient la langue, ils l'inventent quotidiennement. Et du coup... y compris lorsqu'on a des groupes d'étudiants, de scolaires qui sont en première, en terminale, etc., ils entendent la langue très clairement. Même s'il y a un mot qu'on ne comprend pas, on comprend le sens. Voilà. La situation prend le pas sur la formulation.
Alors, vous, votre option à vous, c'est le texte, rien que le texte, tout le texte. Ou alors vous vous permettez des
non,
adaptations.
Non, je n'ai pas.
On en reparlera tout à l'heure avec Philippe Persson qui se permet quelques libertés avec
Je ne change pas un mot. Pas un mot de Marivaux. Simplement, le fait de se l'approprier fait que ça le rend parfaitement audible et compréhensible. Voilà. Et effectivement, si on se dit c'est un classique, je ne peux pas parler comme je parlerai dans la vie, eh bien si, il faut parler le Marivaux. Comme... Alors c'est plus compliqué si on s'attaque à Racine ou à Corneille, ou même à Edmond Rostand, je veux dire n'importe quelle pièce
vers, donc,
en vers. Encore que lorsque vous voyez le Cyrano de Bergerac de Rappeneau avec Gérard Depardieu, on n'a pas l'impression que le vers ronfle, il a quotidianisé complètement le texte. Et c'est, me semble-t-il, ce qu'il faut faire, parce qu'alors là, je ne pense pas qu'on ait le temps, mais j'ai la sensation, si on a du temps, que l'irruption de la télévision comme médium au milieu du XXe siècle a changé le jeu des acteurs. Rapide, hein, je vais essayer de ne pas théoriser, et puis je parle comme ça sans avoir rien préparé, donc c'est compliqué. Disons qu'il pouvait y avoir une convention du jeu théâtral parce qu'il fallait porter la voix, il fallait se faire entendre et il fallait même parfois, au contraire, faire les ha-ha, comme dit Molière. Voilà. Et puis arrive le cinéma qui, évidemment, est beaucoup plus naturaliste dans le jeu et arrive la télévision qui est le premier médium qui mélange la réalité et la fiction. C'est-à-dire qu'il y a une dramatique, et puis après, il y a au journal télévisé une interview d'un boucher qui a été attaqué rue de Tolbiac. Hein, voilà. Eh bien, il faut que le boucher dans la dramatique soit aussi vrai que le boucher de l'interview. Donc, il y a un rapprochement pour le comédien d'un jeu hyper naturaliste et on abandonne toute la convention du jeu que l'on admettait. Voilà.
Ça veut dire que
quand on entend Sarah Bernard, c'est inécoutable. Même Gérard Philippe, ça devient difficile.
Le théâtre ne peut pas s'abstraire des autres formes de jeu, donc.
Il me semble, et en même temps, avec des contraintes qui sont différentes. Moi, j'ai beaucoup tourné pour la télévision, un petit peu pour le cinéma. Le micro est aussi proche que celui de Radio Aligre de ma bouche. C'est pas la même chose quand je joue au Festival de Sarlat et qu'il faut se faire entendre de la dame qui est au 25e rang, en haut. Mais il faut qu'elle ait la sensation que le jeu est naturel. Voilà, c'est ma préoccupation.
Merci Jean-Paul Tribou. Rappelons que vous êtes metteur en scène et comédien dans La Double Inconstance. Vous avez vu 1724, date de parution de La Double Inconstance.
Oui, oui.
Et on est donc trois siècles après.
Exactement.
Merci à vous.
Fais pas le bon.
Allegre FM 93.1, Radio Scénique, c'est le nom de l'émission que vous écoutez, qui est consacrée aujourd'hui à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on monte encore des classiques. Je vous le demande, Philippe Herson, bonjour. Pourquoi est-ce qu'on monte encore des classiques? Pourquoi est-ce qu'on monte l'avare au lucernaire?
Bah, je vais pas paraphraser ce que disait Jean-Paul tout à l'heure. C'est vrai que on monte les classiques parce qu'ils sont encore aujourd'hui, des siècles après avoir été écrits, ils sont encore très inspirants. Ils sont très inspirants pour les metteurs en scène, ils sont très inspirants pour les actrices et les acteurs. Et donc on a toujours envie, grâce à leur écriture, on a toujours envie, nous, de raconter quelque chose. Ils sont classiques parce que, c'est pas un hasard, parce que c'est universel ce qu'ils disent. Sur les caractères, sur la société, surtout, on retrouve toujours quelque chose qui fait écho. C'est pour ça qu'ils sont classiques.
Si ce n'est que vous lui réglez son compte à Molière et à son avare. Chez vous, côté bande-son, ça déménage. Et je parlais tout à l'heure de Molière en trottinette. Eh bien, c'est chez vous que ça se passe. Hein. Oui, il y a l'intervention des forces de l'ordre avec son gyrophare. Et ça se passe dans votre spectacle comme ça. Vous avez choisi de mettre en scène vos élèves, les élèves de l'école du Lucernaire, dont on a deux avares ici. Mm-hmm. Voilà, vous n'êtes pas avare en avare. Il y a Antoine Mahved et Blaise Joanneau, à qui je dis bonjour.
Bonjour.
Voilà, qui se partagent le micro et qu'on entendra tout à l'heure. Vous n'êtes pas particulièrement préoccupé, vous n'avez pas un respect religieux de la temporalité dans l'avare.
Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est un spectacle qu'on a mis en scène, Florence Lecor et moi-même. On est deux metteurs en scène parce que ce projet, en quelques mots, il est né à l'école du Lucernaire, qui est une école qui forme...
Dont vous êtes le directeur.
Dont je suis le directeur et dont on a, en fait, chaque année avec Florence, on décide de mettre en scène un spectacle avec ceux qui ont terminé leur cycle de formation. Ce n'est pas un spectacle de fin d'année, puisque grâce à la collaboration avec le Lucernaire, ils offrent cette magnifique possibilité pour ces jeunes acteurs de jouer 50-60 fois sur la scène du Lucernaire.
En soyons clairs, c'est présenté comme un spectacle la programmation.
Ah ben c'est un spectacle programmé. Oui, hein. C'est surtout dans l'école, on ne dit jamais un spectacle de fin d'année, parce que le spectacle de fin d'année, on a mis l'impression que ça va jouer deux fois, que les parents vont être contents. Non, non. Là, c'est vraiment un spectacle. C'est un spectacle que ma compagnie produit, qu'on met en scène avec Florence, et on a les mêmes exigences que quand on fait d'autres spectacles. Je veux dire, à partir du moment où on décide de mettre en scène un spectacle, voilà, il y a une vraie production, il y a tout ça. Quelle était la première question?
Alors, quand on s'empare de l'avare, moi, j'étais en train de vous dire que vous n'étiez pas particulièrement préoccupé par la temporalité de Molière.
Non, mais...
Vous les mettez en costume moderne?
Oui, parce que tout à l'heure, vous parliez d'adaptation. En fait, l'adaptation, c'est surtout pas, comme disait Jean-Paul, c'est surtout pas réécrire le texte. Pour nous, ça n'a absolument aucun intérêt. L'intérêt, c'est justement de faire résonner cette langue aujourd'hui dans un autre contexte. Donc, qu'ils soient habillés en tenue, comme ils sont là.
Costume.
C'est magnifique parce que ça veut dire que la langue de Molière se fond d'un seul coup, en plus avec leur jeunesse, se fond d'un seul coup avec ce décor-là et ces costumes-là, et résonne encore des siècles après. Donc c'est quand même magique. Quand Jean-Paul parlait des jeunes, les jeunes qui viennent voir l'avare, pareil, il y a plein de mots, je pense, qu'ils ne comprennent pas. L'intérêt au théâtre, ce n'est pas forcément toujours de comprendre, c'est de ressentir. À partir du moment où ils ressentent, où on garde les enjeux, où on garde la situation, et où on s'amuse, parce qu'il faut quand même s'amuser dans tout ça, où on s'amuse à raconter l'histoire, ben voilà, on se permet, mais je dis même pas c'est des libertés, parce qu'aujourd'hui, Jean-Paul, pareil, parlait de l'évolution du jeu, il y a une évolution de la mise en scène, il y a une évolution du regard qu'on porte sur les œuvres, et je pense qu'il n'y a vraiment aucune trahison, enfin je sais même pas si on peut, je sais pas pourquoi on parlerait de trahison d'ailleurs, mais je veux dire, le commissaire arrive en trottinette. À partir du moment où la scène existe et où il est toujours commissaire et où il a le rapport avec Harpagon qui est écrit dans la scène, il n'y a pas de... Effectivement, sur la temporalité, je suis d'accord avec vous. Après, sur l'adaptation...
Il y a tout le texte. Hein.
Oui, non, le texte est coupé.
Rajout, oui. Le texte est coupé, c'est un spectacle qui fait 1h40.
Oui, le texte est coupé, 1h10.
1h10, pardon.
1h10, et ça, ce sont les contraintes du Lucernaire et les contraintes de programmation. Voilà. Mais en même temps, ces contraintes-là sont pas mal. Moi, j'ai bien aimé, parce qu'en fait, j'ai mis adaptation, Philippe Persson. En fait, je regrette parce que j'ai rien adapté. J'ai coupé des choses pour que ça rentre en 1h10, mais l'histoire...
L'histoire
est liée, et surtout, encore une fois, je n'ai pas adapté dans le sens réécriture. Adaptation, c'est plutôt c'est la mise en scène qui adapte avec notre vision à Florence et moi de l'œuvre et qu'on partage avec ces jeunes comédiens.
Et donc je vais m'adresser à l'un de vos comédiens. Enfin, il se trouve que vous avez une distribution en alternance. Et le soir où j'étais là, c'était Antoine Mahabed qui était là, qui jouait Harpagon, ce que dément son jeune âge. Hein. Mm-hmm. Le soir où vous y étiez, on parlait à l'instant avec Philippe Persson de compréhension du texte. Il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé. Il y avait un relativement jeune public et il y a eu une interaction un petit peu étrange. Vous pouvez nous la raconter?
Mais ce soir-là, au premier rang, il y avait une brochette d'enfants. C'était assez drôle de les voir s'amuser de la pièce. Et c'est vrai qu'à plusieurs moments, ils ont commenté ce qui se passait. Donc, acte 1, ils ont dit « Ah, Harpagon, il n'a pas confiance en Élise. » Acte 3, quand il y a Cléante qui vole la bague à Harpagon, il y a eu un bienfait. Et enfin, pendant le monologue, il a crié « C'est Marianne qui a volé la cassette !» alors que c'est même pas elle. Mais en tout cas, ce qui est beau à voir, c'est que ces jeunes enfants qui doivent avoir 6 ou 7 ans comprennent et ressentent la pièce.
Phil Persson, c'est aussi de votre faute parce que vous avez monté ça. Moi, je qualifierais cette mise en scène de parfois de guignolesque parce que vos personnages, ils sont traités. Il y a des coups de bâton, il y a des poursuites, il y a pas les gendarmes et les voleurs, mais quasiment.
Oui, mais ça, c'est encore une fois, c'est le texte hein, qui suggère absolument tout ça. Hein. Le Harpagon, il est quand même, en plus d'être avare, il est absolument odieux. Il est avare dans le sens où on l'entend, il est avare en sentiments. Il règne comme ça sur son petit royaume de manière assez odieuse. Donc voilà, Molière n'est pas tendre. Hein. Molière n'est jamais très tendre aussi avec ses personnages, la plupart du temps masculins d'ailleurs.
Mais alors comment on fait avec... Là, je parle de vos Harpagons. Ils sont souriants, ils sont jeunes comme tout. Ils ont les cheveux un peu longs. Comment est-ce qu'on en fait des vieux grigous un peu radins?
Et non, justement, c'est ce que je disais au début. L'histoire, c'est de faire résonner ça avec leur jeunesse. Et donc d'un seul coup, il s'agissait surtout pas de composer Harpagon avec une vieille voix, voilà, de le grimer. Non, non. La force de ce texte, c'est que des jeunes hommes de 23, 25 ans sont crédibles. Il fallait rendre la chose crédible. Et je crois que depuis le début, c'est la réussite aussi du spectacle. C'est que, en fait, Harpagon, il apparaît jeune et tout ce qu'il dit et tout ce que Molière a écrit en fait un sale bonhomme. Mais au bout d'un moment, on oublie l'âge.
Avec ce spectacle, est-ce que vous n'essayez pas de leur donner une belle carte de visite en leur faisant jouer différentes palettes de leur jeu, parfois comiques, parfois plus classiques, tragiques non. Dans l'avare, c'est difficile de trouver du tragique. En plus, je veux pas spoiler la fin, ça se termine bien.
Hein. l'avare, vous voyez, on parlait de mise en scène, on peut tout à fait le monter de manière... On peut tout à fait le tendre vers le tragique. Hein. La pièce peut apparaître d'un certain aspect assez noir aussi. Donc, il y a tout l'aspect comédie que nous, on a vraiment relevé au maximum avec leur fougue, leur jeunesse et puis leur invention. Et puis, vous savez, Florence et moi, on les a pendant
Florence
deux ans Cor, en cours.
Votre co-metteuse en scène.
Ouais, Florence Lecor et moi, on les a pendant deux ans en cours. On les connaît. Voilà, donc d'un seul coup, quand on passe au projet en disant « Voilà, aujourd'hui, les cours, c'est terminé, maintenant, vous êtes comédien, nous, on est metteur en scène », on sait ce qu'on a envie d'utiliser d'eux, on sait ce qui nous inspire, eux connaissent aussi nos univers, donc voilà, tout ça se rencontre autour d'un texte classique. Et je trouve ça formidable que cette jeunesse s'empare aussi de l'écriture classique.
Blaise Joanneau, vous êtes le deuxième Harpagon. Vous avez aussi peu l'air d'un avare et d'un grigou, d'un vieux grigou que votre petit camarade Antoine Mahabed. Quel rapport vous entretenez comme, ça y est, votre cycle d'études est terminé, vous allez vous lancer. Quel rapport vous entretenez avec le classique?
Moi, j'adore les textes classiques. Je crois qu'en plus, quand on est jeune comédien ou quand on débute, on a très envie de s'attaquer à ces textes-là parce que...
Pourquoi ?
En fait, c'est les textes fondateurs. Et je crois que, bon, après, je dois être aussi un gros littéraire pour aimer particulièrement les Marivaux, les Molières, les Racines. Je trouve que c'est absolument magnifique et que ça résonne encore aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'amuse énormément, c'est de voir que... Dans les Marivaux, dans les Molières, il y a encore des choses qui, moi, me parlent et j'ai encore envie de raconter ça.
Antoine Mahabed, vous hochez de la tête, vous êtes d'accord avec Brice Joanneau?
Je suis totalement d'accord avec...
Avec Blaise Joanneau, pardon.
Oui, Je suis totalement d'accord avec lui parce que le texte est beaucoup plus moderne en fait que ce qu'on veut ou on peut penser. Les sujets sont pour la plupart très actuels et la langue est d'une beauté inouïe, je trouve.
Pourquoi est-ce que vous, Philippe Persson, pourquoi est-ce que vous les mettez pas sur des spectacles, sur des écritures modernes? Pourquoi ne pas leur faire interpréter des textes? Il y a quantité de textes. On va bientôt aborder toute une série qui sera consacrée à la création théâtrale ici dans Radio Scénique. Pourquoi vous les faites pas s'emparer de textes modernes?
Alors les textes modernes, les écritures contemporaines, les écritures de d'auteurs vivants, on les aborde pendant les 2 ans de formation. Donc ils expérimentent. L'idée de l'école, c'est aussi évidemment d'expérimenter tout le plus possible de tout le répertoire des anciens aux auteurs d'aujourd'hui. Pourquoi la première raison, elle est un petit peu banale, dans le sens où, en accord avec le Lucernaire, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, voilà, c'est bien de commencer par un classique. Donc, en fait, le cahier des charges, un peu pour Florence et moi, c'est de monter un classique.
Con la paura nel cuore, vago tra gioia e dolore. Guardo la gente che spende, chi non lo fa mai si pente. Sono un'anima in gabbia, attorno a me solo sabbia. Quanto mi costa so io, per me il denaro è Dio. Solo dell'oro è il potere, chi più ne ha più ne tiene. Ma la rinuncia è un piacere, quando alimenta e trattiene. Vivo lo so, vivo e vivrò come un falò senza fiamma, illuderò il buio, ma morirò del mio futuro, lo so. Domani potrei comprare una perla per lei.
Au meurtrier, justice, justiciel, je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il?
Radio Scénique par Éric Dotaire. Le théâtre sur Aligre FM.
Oui, le théâtre sur Aligre FM qui est aujourd'hui consacré à la question de savoir pourquoi on monte encore des classiques. Et le classique dont on parle, c'est L'avare au Lucernaire, commis en scène par Philippe Persson et Florence Lecor, et dont nous avons les 2 avares avec nous, à savoir Blaise Joanneau et Antoine Mahamet. Pourquoi 2 avares? Pourquoi être aussi généreux en avare? Ce sont des élèves de l'école du Lucernaire qui jouent en alternance. On vient d'entendre, je m'adresse à tous les deux, à vous Blaise Joanneau et à vous Antoine Mahamet, on vient d'entendre un modèle un peu écrasant, celui de Funès. Comment est-ce qu'on se débrouille pour jouer un vieux rapia quand on a 23 ans?
Alors, je crois que le parti pris de Philippe et Florence était de surtout pas nous vieillir, nous grimer, et de le jouer avec notre vieillesse pour justement faire ressortir tout l'aspect horrible, avec notre jeunesse. De le jouer avec notre jeunesse pour justement supprimer, pour faire ressortir toute sa folie, sa maladie, son avarice et tous ses défauts. en montrant que c'est pas parce qu'il est vieux qu'il a tout ça et faire sortir une jeunesse.
Après tout, il y a des avares à tout âge.
Et à toute époque aussi.
À toute époque. Donc c'était Antoine Mahabed qui parlait, vous Blaise Joanneau.
C'est ça. De toute façon, on a très vite compris que ça allait être difficile de se vieillir et ça allait être un peu caricatural. Je crois que notre jeunesse et notre imagination et la convention du théâtre allaient faire en sorte qu'on allait voir un vieil homme dans tous les cas. Et on a surtout abordé la question du personnage d'Harpagon par son autorité, parce que c'est quelque chose qui le caractérise, et évidemment sa folie, son avarice. Et ça se travaille, ça se joue.
Tous les deux, vous voyez en scène parce que comme vous êtes en alternance, vous n'êtes pas l'avare tous les soirs, mais par contre, vous êtes en scène tous les soirs, si je ne m'abuse.
On est en scène tous les soirs et en fait, on est en alternance sur le rôle de Harpagon et Valère.
Donc, vous voyez jouer l'un l'autre.
Ouais.
Quels avares différents faites-vous? Par exemple, vous Blaise, quel avare vous faites par rapport... Ou quel avare fait Antoine
Quel avare fait Antoine?
Je m'adresse à Blaise Joanneau et lui.
Antoine est très drôle. je trouve qu'il est très dynamique et il a, c'est assez fou. Il y a une voix qui est prise, une autorité assez folle quand on arrive sur scène. Enfin, surtout quand je suis Valère, donc je fais le valet qui doit bien se faire voir de mon maître.
Il est un peu lèche-botte, hein.
Ah, carrément lèche-botte, mais moi je m'en amuse follement, c'est génial. Et j'ai en face de moi un Harpagon complètement délirant. Moi, c'est surtout ton autorité et ta drôlerie qui me saisit à chaque fois.
Alors, même question, Antoine, quel Harpagon fait Blaise?
Je crois que Blaise, lui, c'est un Harpagon totalement fou, parce que dans les coulisses, je l'entends, puis... Je rentre sur scène et je le vois, et là j'ai presque un peu peur. Il a des yeux exorbités qui vraiment attestent de la folie du personnage mêlée à cette comédie. Donc c'est une folie vraiment drôle que Blaise fait. Voilà.
Alors je vous ai demandé de préparer un petit exercice qui est pas évident. Vous n'êtes pas sur scène, il n'y a pas d'éclairage, il y a votre metteur en scène avec son œil sévère. Je vous ai demandé à chacun de préparer un petit extrait. Il nous reste encore 6-7 minutes. Qui veut commencer? Vous Antoine?
Eh bien, dans Blaise. Tous les cas, c'est une... on a une petite scène.
Vous êtes ensemble.
Ensemble, hein, c'est ça.
Alors, je préviens Kumba, attention, ce sont des voix de comédiens, donc ça risque d'être... Ah, on vous écoute. Vous nous adapter. Situez la scène?
On a choisi la scène sans dot, dans laquelle Harpagon annonce à Élise qu'il va la marier ce soir. Et elle ne veut pas. Alors, il appelle Valère pour lui demander raison, pour lui dire que... Il faut absolument qu'elle le fasse, qu'elle l'épouse. Et il annonce qu'en plus, c'est sans dot. Et donc là, c'est un moment difficile puisque Valère est éperdument amoureux d'Élise.
On vous écoute.
Il faut savoir aussi qu'au tout début de la pièce, on apprend que Valère et Élise entretiennent une liaison. Ouais. Et Valère s'est mis au service d'Harpagon justement pour se bien faire voir de celui-ci. Et justement, qu'il approuve ce mariage.
Antoine Mahabed, Blaise Joanneau, on vous écoute.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Valère, nous t'avons élu pour nous dire qui a raison de ma fille ou de moi.
C'est vous, monsieur, sans contredit.
Sais-tu bien de quoi nous parlons?
Non, mais vous ne sauriez avoir tort, et vous êtes toute raison.
Je veux ce soir lui donner pour époux un homme aussi riche que sage, et la coquine me dit au nez qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela?
Ce que j'en dis...
Oui. Quoi?
Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment. Mais aussi n'a-t-elle pas tort, tout à fait, et...
Comment? Le seigneur Anselme est un parti considérable. C'est un gentilhomme qui est noble, doux, posé, sage et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage. Serait-elle mieux rencontrée?
Cela est vrai.
Ah.
Mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipité les choses, et qu'il faudrait au moins quelques temps pour voir si son inclination pourra s'accommoder avec...
C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Je trouve ici un avantage qu'ailleurs je ne trouverais pas. Il s'engage à la prendre sans dot.
Sans dot?
Oui.
Je ne dis plus rien, voyez-vous. Et voilà une raison tout à fait convaincante, il se faut rendre à cela.
C'est pour moi une épargne considérable.
Assurément, et cela ne reçoit point de contradiction.
Enfin, il est vrai que votre fille vous peut représenter que le mariage est une plus grande affaire qu'on ne peut croire. Qu'il y va d'être heureux ou malheureux toute sa vie. Et qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions.
Sans dot.
Mais vous avez raison, et voilà qui décide tout, cela s'entend.
Sans dot.
Ah, il n'y a pas de réplique à cela, et on sait bien. Et qui dit entre peut aller la contre, mais... Enfin, ce n'est pas qu'il y ait quantité de pères qui aimeraient mieux ménager la satisfaction de leur fille que l'argent.
Sans dot.
Et il est vrai, voilà qui ferme la bouche à tout. Sans dot. Le moyen de résister à une raison comme celle-là.
Antoine Mahabed, Vlad Joanneau, j'allais dire que vous n'aviez pas le support physique, mais si vous avez vos jeux de scène, et on voit que vous êtes de temps. Philippe Persson, vous les avez trouvés comment là ce soir, ce matin?
Ce matin, très bien, très bien, toujours très bien. Non, c'est vrai que pour eux, c'est une chance absolument incroyable de pouvoir faire en alternance ces deux rôles. Et puis, vous savez, après, dans le travail, comme on travaille avec plusieurs équipes, Florence et moi, il y a plusieurs équipes de comédiens, eux sont présents vraiment tous les soirs, encore une fois, des fois en Harpagon, des fois en Valère. Tout ça s'enrichit mutuellement, vous voyez, c'est vraiment un travail aussi, qu'on va dire, c'est pas un travail collectif, mais encore une fois, c'est toute cette jeunesse réunie qui nous inspire beaucoup, Florence et moi, fait que, voilà, on essaie de... Toutes les idées circulent, on est dans une humeur joyeuse de travail, et puis après, voilà, ils sont sur cette scène du Lucernaire à jouer deux rôles qui sont deux rôles exceptionnels.
Alors finalement, sans faire du jeunisme forcené, est-ce que ce serait pas ça la définition d'un classique, un texte qui arrivait à être perpétué par des jeunes gens de 23 ans.
Oui, ça peut être une définition. C'est vrai que... mais c'était bien quand Antoine et Blaise disaient à quel point ces textes-là résonnaient entre eux et à quel point ils avaient envie de les dire et de les faire partager. À partir du moment où on a envie de faire partager un texte, voilà...
Alors, tous les ans, il nous reste encore 30 petites secondes, tous les ans, vous mettez vos élèves sur scène et le plateau du Lucernaire est à votre disposition pendant un certain nombre de dates. Ça donne des enjeux de réussite, parce que là, c'est du théâtre payant. Comme vous le disiez, ce ne sont pas les parents qui viennent avec leur caméscope pour filmer leur petit chéri.
Oui, l'enjeu, il est important. Et puis, c'est vrai que... chaque année, l'an dernier, on avait monté le mariage de Figaro. L'année d'avant, on avait monté le Malade imaginaire. Voilà, on s'attaque comme ça à ces grands textes avec eux, en leur donnant encore une fois la chance de jouer 50, 60 fois au Lucernaire. Et on ne remerciera pas assez le Lucernaire pour cette confiance. Mais c'est vrai qu'il y a l'enjeu. Et puis en fait, on peut plus dire élève, parce qu'à partir du moment où voilà, maintenant, ce sont des comédiens. Et comme vous disiez tout à l'heure, le public en fait s'en fiche de savoir si ce sont de jeunes comédiens. Ils viennent voir un projet au Lucernaire que tout le monde revendique et avec l'exigence qu'on a pour tous les spectacles.
Philippe Persson, merci. Rappelons que vous montez en ce moment l'Avare au Lucernaire jusqu'au 3 novembre et qu'aujourd'hui vous êtes venu avec Blaise Joanneau et Antoine Mahabed. Merci. Pascal, nous allons aujourd'hui parler du français dans tous ses états, enfin, je veux dire du théâtre français, et disons, pour être encore plus précis, de la comédie française et son architecture.
Oui, nous étions à Vicence pour la première émission, dans le Pas-de-Calais et à Londres il y a 2 semaines, et cette fois-ci nous sommes à Paris. Comme certains le savent, la comédie française a été créée par ordre de Louis XIV en 1680, donc il y a bientôt 350 ans, en fusionnant 2 troupes alors rivales, celle de Molière, qui était mort en 1673, et celle de l'Hôtel de Bourgogne. Un pacte fut alors scellé entre les 2 entités, et un lieu fut trouvé, à savoir la salle du jeu de pomme de la bouteille, appelée ensuite Théâtre de Guénégaud. Cette salle qui aurait été le lieu de la première représentation d'opéra en France, se situait à peu près à l'emplacement de l'actuelle rue Jacques Callot, sur la rive gauche. La troupe est chassée de là en 1686 et déménage dans le voisinage en achetant le jeu de pommes de l'Étoile situé rue de l'Ancienne Comédie. Les comédiens français démolissent le bâtiment et construisent un théâtre qui sera baptisé l'Hôtel des comédiens ordinaires du roi. La salle est inaugurée en 1689 avec Phèdre et Le médecin malgré lui. La Comédie française quittera ces lieux devenus trop petits en 1770 et s'installe alors dans la salle des machines du palais des Tuileries.
Oui, dans une salle des machines, c'est un drôle d'endroit pour un théâtre, non ?
En fait, il s'agissait bien d'une salle de spectacle appelée ainsi car équipée de machines modernes permettant de changer les décors pendant les représentations. Cette vaste salle pouvait accueillir 4000 spectateurs, prenait place dans une aile du palais des Tuileries attenante au pavillon de Marsan. À gauche de la scène, il y avait le jardin, à droite la cour du Louvre, d'où l'expression côté cour, côté jardin. Ce théâtre faisait donc partie du patrimoine royal et avait été aménagé par Louis XIV au début de son règne. Le barbier de Séville de Beaumarchais y est créé en février 1775. 7 ans plus tard, en 1782, la Comédie française retourne rive gauche et s'installe dans un nouveau théâtre, inauguré le 9 avril par Marie-Antoinette. On y joue une autre pièce de Beaumarchais, malgré l'avis défavorable du roi, le mariage de Figaro. L'édifice se tient au centre d'une place en demi-cercle où convergent de nouvelles rues qui constituent donc un nouveau quartier. L'ensemble est conçu par les architectes Peyre et Devailly dans un style plutôt austère. En effet, l'époque baroque est bel et bien terminée. Le goût est désormais au retour de l'Antiquité, à la sobriété, à la rigueur. Ce théâtre s'appelle l'Odéon. C'est la première salle dont le parterre est équipé de bancs. Il est rebaptisé Théâtre de la Nation en 1791, le temps de la Révolution.
Tout cela ne nous rapproche toujours pas de la place Colette, mon cher Pascal.
On y arrive, on y arrive. Nous allons de ce pas voir ce qui se passe du côté du Palais Royal, domaine qui appartient alors au duc de Chartres, dit Philippe Égalité. Celui-ci, pour remettre à flot ses finances, a lancé une opération immobilière sous la forme d'un lotissement comprenant des appartements et une galerie commerciale. Il demande donc à l'architecte Victor Louis, qui venait de réaliser le Grand Théâtre de Bordeaux, de concevoir un écrin de pierre autour de son jardin. Ce programme est complété par la construction d'un nouveau théâtre. De 1786 à 1790, le Palais Royal devient pour quelques décennies le lieu branché de Paris, avec ses cafés, restaurants, boutiques, ses incroyables et ses merveilleuses. En 1799, la troupe de la Comédie française s'installe dans ce nouveau théâtre, non loin de l'ancienne salle située à droite du palais, dont la façade regarde vers le Louvre, salle où Molière avait créé l'Avare en 1668.
On y revient.
Ses héritiers revenaient donc au Palais Royal 131 ans plus tard.
Alors à quoi est-ce qu'il ressemblait ce théâtre du nouveau Palais Royal à ce qu'on peut voir aujourd'hui ?
En partie, oui. L'édifice réalisé par Victor Louis en 1790 avait un plan rectangulaire dont le petit côté donnait dans la rue Richelieu, d'où le nom de la salle. Rappelons que le palais qui abrite aujourd'hui le Conseil d'État avait été construit par le même Richelieu sous Louis XIII. La façade principale et l'entrée étaient donc situées sur la rue. La façade arrière s'intégrait dans les arcades, là où on accède au jardin. À cette époque, l'actuelle place Colette n'existait pas. Il y avait des maisons collées au théâtre, côté sud, vers la rue Saint-Honoré. Pour gagner de la place, l'architecte a superposé le vestibule et la salle qui se trouve à l'étage. Celle-ci est supportée par des colonnes sur un plan circulaire, ce qu'on appelle le péristyle. Le bâtiment qui abrite la vénérable institution a été maintes fois modifié, aménagé, reconstruit, notamment après l'incendie de 1911. La plus grande modification a eu lieu sous le Second Empire. C'est en 1858 qu'est inauguré le nouveau théâtre agrandi grâce à la démolition d'immeubles qui permet la création de ce qui deviendra la place Colette. L'agrandissement du théâtre se fait donc vers le sud, sur la droite de la façade d'origine et dans le même style classique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a du mal à identifier la façade principale. L'ensemble du bâtiment est parcouru au rez-de-chaussée par une colonnade uniforme se raccordant à chaque bout au Palais Royal. Enfin, l'architecte Pierre-Prosper Chabrol enrichit l'édifice d'un escalier monumental astucieusement conçu puisqu'il se superpose au couloir par lequel on accède désormais au péristyle depuis la place. Les volets d'escalier rejoignent le palier où se trouve le vestiaire. Une seule volée ensuite permet l'accès à la salle et au foyer du public. La conséquence de cette configuration, c'est que l'axe de la salle et de la scène est maintenant perpendiculaire à l'axe de la séquence d'entrée matérialisée par le hall et le grand escalier.
Fin de cette
troisième édition de Radio Scénique, votre nouveau magazine sur la création théâtrale à l'antenne d'Allegre FM 93.1. Merci infiniment à nos invités qui nous ont fait le plaisir de venir dans nos studios. Merci à Jean-Paul Tribou qui joue et met en scène la double inconstance au Théâtre du Lucernaire. Merci également à Philippe Persson qui co-réalise la mise en scène de L'Avare au même Théâtre du Lucernaire. Merci à Blaise Joanneau et Antoine Mahabet qui sont les deux avares en alternance. Concernant mon équipe de ce jour, merci à Pascal Dutertre pour sa chronique architecturale et merci à Pierre Demkoff qui m'a assisté et à coups humains la programmation musicale de cette émission. À la régie, nous avions aujourd'hui Kumba Kwas, merci infiniment, et Raphaël Shahada. Il est 10h57 et 15 secondes. À 11h, vous retrouverez Vive le cinéma.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.